Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio G 101.5 et partout dans le monde sur internet radio-g.fr. C'est Tonix Live ce soir, Tonix qui va vous parler de l'actualité gay et lesbienne. Donc déjà on dit bonjour à nos, oui, à nos auditeurs avec les chroniqueuses ici présentes. Donc nous avons
bonsoir à tous.
Ah ben voilà. Donc vous avez reconnu la
bonsoir
voix.
Bonsoir Delphine, bonsoir Karine.
Bonsoir Laure, bonsoir Karine.
Bonsoir Laure, bonsoir Delphine. À vous de trouver qui est qui. Toi tu vas nous parler aussi d'un coming out, mais un petit peu différent, d'une communauté un petit peu différente. Je vais te laisser, je vais te laisser la parole tout de suite, tu vas nous raconter ça.
Oui tout à fait, pas du tout le même genre de coming out. Ça se passe en Allemagne cette fois-ci, où 125 catholiques ont fait leur coming out. Ce 24 janvier donc de cette année, dénonçant les discriminations de l'Église. Donc, comme je vous le disais, donc, cette centaine de catholiques homosexuels, prêtres ou impliqués dans leur paroisse, ont fait leur coming out ensemble le 24 janvier en Allemagne. Ces 125 personnes souhaitent dénoncer la politique discriminatoire de l'Église dans leur pays. Pardon. Ces prêtres, professeurs de théologie, salariés de l'Église ou catholiques, pratiquants ont révélé leur homosexualité sur le site dédié hashtag out in church. Ni l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ni l'engagement dans une relation ou un mariage non hétérosexuel ne doivent être un obstacle à l'embauche ou un motif de licenciement, estime-t-il dans un manifeste. Les 125 signataires réclament un changement du code du travail de l'Église catholique, avec la suppression des formulations dégradantes et excluantes dans les règlements. Ils veulent en finir avec un système de dissimulation, de double morale et de malhonnêteté. Les églises protestantes et catholiques emploient 1,3 million de personnes en Allemagne et représentent ainsi le deuxième plus important employeur du pays derrière le secteur public. « Je suis gay et personne ne le sait », confie un prêtre, aumônier dans une prison au magazine Bild. « Tout le monde se tait, tout le monde regarde ailleurs. Nous sommes si nombreux et l'Église ne veut pas le voir. » Ou alors, deux femmes, une ancienne directrice de centre Caritas et une professeure de théologie, ont dissimulé leur relation pendant 40 ans, de peur de perdre leur emploi. Elles ont fait leur coming out ce lundi, 2 ans après leur mariage, célébré en secret. Les signataires ont reçu le soutien de l'archevêque de Hambourg. La question LGBT+ fait l'objet de vifs débats dans l'Église. Le pape François suit la tradition catholique sur le mariage, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme en vue de procréer, et a critiqué plusieurs fois la théorie du genre, qualifiée de projet idéologique. Quelques jours plus tôt aussi, de nouvelles accusations visant l'Église allemande dans des affaires de pédocriminalité ont fait surface. Un rapport indépendant a mis en cause de hauts dignitaires, dont l'ancien pape Benoît XVI, accusé d'inaction face à des prêtres pédocriminels à la fin des années 70 et au début des années 80. Et au jour d'aujourd'hui, donc, LGBT+, les signataires de ce manifeste réclament une modification du code du travail de l'Église catholique. Et ils ont bien raison, une grande avancée sur ce, ça, sur ce domaine-là. Et
ça c'est vraiment des bonnes choses, hein, que ce soit tout à l'heure auprès des athlètes qui sont visibles de partout dans le monde, ou là dans une communauté qui est encore plus
catholique, où les choses sont bien ancrées, et de voir bouger les choses, c'est vraiment une bonne chose.
Ouais, de bousculer tout ça et de montrer que ça existe partout et qu'il n'y a rien de grave, et que c'est juste
courageux de leur part aussi.
C'est très courageux, alors ça oui, on peut les féliciter pour ça, c'est vraiment très courageux.
Tonix vous soutient encore une fois.
Oui, on est là. Tonix soutient tout le monde.
Voilà. On vous soutient.
Non, les bonnes causes comme ça, oui, tout à fait.
Oui, non, oui. Ça fait plaisir.
Merci.
Eh bien, j'ai préparé des petites questions.
Qu'est-ce que le Trovada? Alors, réponse 1, une danse nue brésilienne, muy calor, mi chiquita.
Ouh là là.
Réponse 2, un médicament qui peut être prescrit aux personnes séropositives. Réponse 3, une crème pour apaiser les hémorroïdes. Réponse 4, c'est comme Trivago, mais pour les gays. Trovada, quoi.
C'est nul. Bon, alors, ça serait quoi?
Alors,
j'allais dire, je donne ma langue au chat, mais je pense que ça peut être détourné, donc je vais pas le dire.
La danse, le médicament, la crème ou le site de voyage?
Je dirais le médicament.
Le médicament, alors pas le site de voyage.
Soit la première, soit la deuxième.
J'étais bien sur la crème pour les hémorroïdes. Mais ça s'appelle pas comme ça en général.
Trovada, ouais. Non, moi je sais pas, comme Trivago, mais pour les gays, parce que ça c'est bien un truc de marketeuse.
Trovada. Alors on y va, il faut vous décider. Alain.
Bon allez, moi je vote pour la danse nue brésilienne parce qu'il y a la petite citation. Hein,
la danse nue brésilienne.
Bon alors attends, on va faire une petite réunion pour en parler là.
On n'a pas toute la nuit, parce qu'il n'y a pas que cette émission.
Alors, moi je dirais bien danse nue brésilienne parce que j'ai envie de le voir exécuter ça si jamais c'est ça.
Faut pas lui dire ça.
Hein. Ah non, faut pas lui dire ça.
Il a vite des amis.
Oulala, oulala, oulala. Ouais, bah allez, danse nue brésilienne vendue.
Alors, c'est quoi le Trovada?
Eh ben, c'est un médicament qui est prescrit aux personnes séropositives.
Vous
avez
d'accord.
Totalement faux.
Ah bah zut alors.
Et donc en fait, à la base, donc, c'est une partie de la trithérapie qui peut être prescrite donc, à un séropositif. Mais depuis quelques temps déjà, une analyse serait en train de se finaliser, officialisant que la molécule qu'elle contient permettrait en fait à un séronégatif de protéger son organisme du VIH, même en cas de rapport non protégé en fait, avec un partenaire séropositif. Pour cela, il suffirait de prendre en fait ce médicament juste avant et après le rapport. Avant et après, oui. Certains déclarent qu'il s'agit d'une bonne nouvelle et d'autres restent en fait néanmoins sceptiques en restant sur l'idée que le plastique, c'est fantastique.
Et le caoutchouc, donc, c'est carbone.
Donc c'est pas
comme le chantait, comme le chantait.
Sécurité.
Oui, donc c'est pas uniquement pour les hommes, ça sert aussi.
Ah non, ça peut servir aussi également pour les hétéros.
Voilà, c'est le Trovada.
Moi j'appelle ça une bonne nouvelle personnellement.
Pour la deuxième question, on rencontre Paul, l'animateur d'Air d'Afrique, toujours sur Radio G. Déjà, la question est dure à lire. Hein. Paul, répète après nous. Homosexualité.
En quelle année l'homosexualité?
Allez, on reprend, Paul.
Voilà. Homosexualité. Homosexualité a-t-elle été dépénalisée? En l'an 800? En 1980?
Ah, il faut lire ce qu'il y a derrière. Hein. Alors, en l'an
800? En l'an 800, sacré Charlemagne.
D'accord. Les auditeurs vont comprendre, t'inquiète pas.
En 1980, pendant que Sophie Marceau organisait sa première boum,
ouais.
En 1982, d'ailleurs, Sophie Marceau a à nouveau organisé une boum pour fêter ça. En 1999, c'est l'effet tempête du mois de décembre. Ah. Donc, vous voulez savoir quelle année?
Oui. 80, alors, 800, l'an 800, 1980, 82 ou 99?
Je dirais l'an 800.
C'est sûr. Pas du tout. Figure-toi que c'était en 82.
82 ?
Ouais, avant c'était pénalisé.
Eh oui, c'était le 4 août 82. Sur une proposition donc, du ministre de la Justice, l'Assemblée nationale vote la dépénalisation de l'homosexualité.
Et... Vous parlez gros français, je n'avais pas compris. Bon, j'ai
la mauvaise foi, j'hallucine.
Attends, et en fait, dans les faits, elle n'était plus condamnée, mais la majorité sexuelle des homosexuels était quand même fixée à 18 ans contre 15 ans pour les hétérosexuels.
Ah, d'accord. Et donc après, tu
donc, attends, rappelle-moi la date, s'il te plaît.
82.
82.
Donc, ouais, un an après Mitterrand.
C'est quand Sophie
après ma naissance.
C'est possible, on ne connaît pas ta naissance, mais on est. Tu t'es né en quelle année?
Je suis né en l'an 800.
Oui, d'accord.
Il est fait pas.
T'es vachement bien conservé, dis donc.
Ah oui.
Et puis attention, quand on dit qu'elle n'était pas pénalisée avant, elle ne l'était que depuis le gouvernement de Vichy. Parce qu'avant le gouvernement de Vichy,
elle avait déjà été dépénalisée.
Hein, donc.
Puisque nous étions avec Paul, l'animateur d'Air d'Afrique, le dimanche à 15h sur Radio G, restons sur son continent pour un constat malheureusement critique, puisque c'est l'endroit le plus touché par le VIH. On fait le point avec Florian. Ah oui, notez bien l'adage africain qui explique pourquoi on n'y utilise pas de préservatif.
Oui, alors effectivement, l'Afrique, c'est le continent qui est le plus touché par le VIH. Il y a environ 24,7 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Alors, je me base sur des données de 2013 seulement. C'est les données de l'ONU SIDA, donc c'est-à-dire que c'est l'organisation
spécifique pour
à l'ONU qui gère les questions liées au
ça
SIDA.
Ça prouve que c'est quand même une chose importante. S'il y a vraiment à l'ONU, il y a une section spécifique pour ça, c'est que c'est un problème grave.
Ah oui, oui, c'est important, carrément. Oui. Donc voilà, et elle touche, et donc le VIH en Afrique touche principalement les femmes. Il y a 58% des femmes africaines, enfin 58% des personnes qui vivent avec le VIH sont des femmes. Voilà. Sinon, ça... et il y a 1,5 million de nouvelles contaminations. En 2013, il y avait 1,5 million de nouvelles contaminations.
En une année, 1,5 million.
Oui, oui. Alors, c'est des chiffres qui sont en baisse. Hein. Par rapport à... entre 2005 et 2013, les nouvelles contaminations ont baissé d'un tiers, en fait.
C'est grâce à quoi la...
Grâce aux toutes, techniques de, à toutes les techniques prévention. De prévention qui sont mises en place et que j'y viendrai juste après.
D'accord.
Voilà, et donc... Ces nouvelles contaminations représentent 70% des nouvelles contaminations dans le monde. Donc, elles sont principalement en Afrique.
Ah oui, c'est vraiment très concentré.
Bah, c'est concentré principalement en Afrique et principalement en Afrique subsaharienne, donc sous le Sahara, donc ce qui correspond à l'Afrique noire en fait, hein, jusque l'Afrique du Sud. Hein,
et pourquoi ? C'est parce que c'est leurs pratiques qui sont... pourquoi ces pays-là plus ?
Parce que c'est lié aussi à...
Voilà, je ne crois pas que c'est les pratiques, mais c'est compte tenu peut-être d'une situation qui fait que les gens ne croient pas à cette maladie. Au départ, les gens ne croient pas à cette maladie. Ils pensent que les gens veulent les défendre de faire des enfants, ou bien de faire l'amour. Donc, ils ne croyaient pas. Donc, ce n'est pas une question de pratique, mais c'est une question de moyens et d'informations qui passent mal, surtout.
Parce que pour eux, le préservatif, c'est plus la contraception que la protection.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a un adage africain qui dit que je ne vais pas manger peut-être un animal avec sa peau. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Ah bah si, on te comprend. Donc, on ne va pas manger la saucisse sans la déballer, c'est ça, oui. Ouais. C'est joli, Mandy, hein, on ne va pas manger un animal avec sa peau.
Voilà. Donc...
Effectivement, oui. Il y a plein de raisons, différentes qui font que ça se passe là-bas principalement. Je vais en venir aux moyens justement de prévention et alors plus que prévention, mais aussi moyens de, enfin plutôt curatif aussi, même si on ne guérit pas du VIH, mais il y a des traitements. Mmh. En général, la distribution des préservatifs c'est organisé. Alors ça dépend des pays, mais c'est plutôt organisé de façon au niveau de l'État en fait. C'est en général les gouvernements qui se chargent de distribuer...
C'est-à-dire quoi ? C'est dans les mairies du coin ? C'est très...
En général, ça passe plutôt par des organismes publics de distribution. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Alors peut-être que...
Oui, mais souvent, ce sont des préservatifs qui doivent être donnés gratuitement. Mais souvent, les gens les vendent.
Alors voilà, il y a ça.
Donc, comme les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir les acheter, ils préfèrent ne pas se protéger.
C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent le préservatif, qui s'en servent pour avoir de l'argent.
Pour avoir de l'argent, voilà.
Il y a du boulot.
C'est, voilà. Alors, il y a cet aspect-là, effectivement. Et il y a aussi l'aspect certaines fois, je lis des commentaires et il y a des avis où les préservatifs ne sont pas adaptés, en fait. Alors, soit à la taille.
Oui, voilà, vas-y, va à fond, pas de problème.
Non, mais c'est le stéréotype, mais
c'est vrai.
Il y a certaines régions.
Paul, dis-nous.
Ah oui,
les Africains, ils ont une grosse bite.
Ah oui, ça c'est vrai.
Ça c'est vrai.
Ça c'est vrai.
Voilà.
Vous pouvez vérifier.
Ah non, c'est... Il est chaud, Paul.
Vous nous laissez 5 minutes.
Clotaire, non, on va le calmer, Clotaire. Oh là là, chaleur.
Donc, il y a certaines régions où il y a ce problème-là de taille et il y a une marque, de préservatifs qui a sorti des préservatifs 3 fois XL.
Donc, par rapport à ce qui se vend en Europe, c'est encore plus grand que
donc,
ça.
Donc ils font 21 de long, je sais pas quoi.
C'est pour les éléphants, ça. Les éléphants d'Afrique.
Alors, plus que ça, il y a aussi des problèmes de qualité du préservatif parce que, en général, comme c'est fait pour que ça soit distribué gratuitement, bah, des fois, les préservatifs ne sont pas tous de bonne qualité. Et,
Il y avait eu un scandale une année où ils agrafaient le préservatif avec la feuille de soin. Non, 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 et ouais, non, et bah oui, donc forcément, voilà, c'est vrai. Il y a eu une méconnaissance de l'utilité du préservatif.
Voilà. Alors, il y a le préservatif. Mais en Afrique, il y a beaucoup aussi la question de la circoncision.
C'est dans nos traditions. Tous les hommes passent par la circoncision. Des fois, il y a des cérémonies qui sont organisées où les gens vont dans la forêt pour au moins une semaine ou bien deux semaines. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est dans nos traditions, la circoncision. Mmh. Donc, avant le sida, on connaissait la circoncision. Mmh. Donc, ce n'est pas une mode pour pouvoir peut-être se protéger contre le sida, mais c'était notre vécu avant.
Donc ouais, en fait, ils essayent de remettre ça au
oui, c'est ça, pour que le maximum, quand même, tout le monde n'est pas circoncis.
Voilà, peut-être qu'avec l'évolution scientifique, les gens ont trouvé que la circoncision était favorable peut-être à une situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais sinon, dans nos traditions africaines, la
donc
plupart...
Donc, toi Paul, tu retournes souvent en Afrique, ces problèmes-là, vous en parlez, oui, ou c'est tabou aussi?
Je retourne souvent en Afrique, comme on le dit, le morceau de bois qui reste dans l'eau, quelle que soit sa durée, ne devient jamais un caillou. Donc, je suis en Europe depuis des années, mais je suis toujours africain.
Alors, j'ai du mal à...
vous n'avez pas compris, alors.
Si, c'est bon, si.
Moi, j'ai compris.
Ça y est,
c'est
voilà. Donc, je retourne souvent en Afrique, mais ce sont des sujets qu'on n'en parle pas trop. Surtout dans les villages reculés. Mais dans les grandes villes comme Abidjan, Bamako ou Lagos, ça, ce sont des problèmes qu'on parle entre nous, jeunes. Voilà, c'est ça.
Restons en Afrique maintenant pour parler cinéma avec Olivier.
Et puis quoi encore? Qui s'est caché ça et qui a par couvert?
Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que tu auras jamais de te faire sauter.
Bon, on a des jingles spécifiques, hein. C'est spécial, mais c'est l'émission.
Alors, pour faire ma chronique, en fait, je m'inspire généralement d'un livre qui s'appelle « L'homosexualité au cinéma » de Didier Roth-Bettoni. C'est un livre de 700 pages. Et en fait, l'Afrique, elle n'occupe que 3 pages dans ce livre. C'est dire, en fait, le peu de films en rapport avec les gays et les lesbiennes en Afrique. Mais j'ai quand même retenu 2 films qui traitent d'homosexualité en Afrique. Enfin, en Afrique noire, principalement. Donc il y a un premier film, apparemment, un film guinéen de Mohamed Camara, qui est sorti en 1997, et qui s'appelle Dakan ou Dakan, je ne sais pas.
Dakan.
Donc c'est l'histoire de 2 lycéens, donc 17-18 ans, Sori et Manga, qui sont 2 hommes, donc ils sont amoureux l'un de l'autre. Donc leur amour est très mal accueilli par leur famille. Et chacun, en fait, va devoir se séparer. Donc, Sori cède aux pressions et se marie et a un enfant. Et puis, Manga, lui, doit carrément aller voir... Enfin, sa famille l'oblige à aller voir un marabout pour qu'il le délivre de cette passion. Donc, par contre, après, il y a un happy end, en fait. Ils vont revenir ensemble à la fin. Tu l'as vu, ce film?
Précisément, je ne l'ai pas vu. Mais j'en ai entendu parler de ça, puisque... Comme je le disais, dans la tradition africaine, ces genres de situations sont difficiles à en parler.
Oui, c'est très tabou.
Voilà.
Ouais.
Mais bon, aujourd'hui, avec l'évolution de la civilisation, chacun a une position. Donc, dans les grandes villes, on essaie de se surpasser pour en parler plus facilement et ça se développe.
Mais au niveau cinéma, donc, très peu.
Au niveau cinéma, très peu. Très peu. Puisque c'est fait... Le cinéma est fait, le cinéma africain surtout est fait pour que les Africains voient ces films. Et si ça traite des sujets qui sont un peu...
Ils n'iront pas le voir.
Voilà, ils n'iront pas le voir. Voilà, c'est pourquoi les réalisateurs...
Il y a un autre film apparemment qui a fait scandale au Sénégal en 2001. C'est un film sénégalais donc, de Joseph Gaye Ramada. C'est Carmen. Carmen Gaye.
Oui, oui.
Donc en fait, ça se situe dans une prison, la prison à Gorée, donc près de Dakar. En fait, c'est une détenue qui s'appelle Carman, qui séduit la directrice de la prison par son érotisme débridé et son insolence sexuelle. Donc elles vont en fait avoir une relation ensemble. Et apparemment, ça fait beaucoup, beaucoup de remous au Sénégal. Et il y a notamment une influente confrérie musulmane du Sénégal qui a manifesté sa réprobation. En fait, dans le film, il faut savoir qu'à l'enterrement d'une lesbienne, en fait, on a passé des chants religieux. Et apparemment, donc, ça fait scandale. Ça fait scandale. D'accord? C'est vrai? Tu confirmes?
Oui, c'est vrai, je confirme. Et comme je le disais, dans la tradition africaine, ces genres de situations sont tellement difficiles, sont tellement délicats, on n'en parle jamais. Donc quand il y a des films comme ça qui se réalisent, c'est difficile de voir ça dans les salles du cinéma africain. Et ça, c'est très difficile. Ouais.
D'accord.
On quitte l'Afrique pour aller dans les Caraïbes. Vous voyez qu'on voyage quand même beaucoup en Antonix Live. On est cette fois-ci au bar Le Level Up d'Angers, où nous rencontrons JP, l'animateur d'Ambiance Soleil, le dimanche à midi sur Radio G. Il n'a pu échapper, lui non plus, à la question LGBT de Clotaire.
Ça va, JP ?
Ça va.
Alors tu vas pas tous les draguer, Clotaire.
Je transpire à grosses gouttes,
ouais,
ça
c'est
va.
Ça, ouais.
Alors, question culture gay. En quelle année l'homosexualité a-t-elle été retirée de la liste des maladies mentales ? Ah ouais, ça je savais pas du tout.
Ah bah voilà, donc t'as quatre propositions, vas-y, voilà. Tu les dis.
En 1942, la même année que la naissance de Barbara Streisand. En 1981, la même année que Captain Flamme a enflammé la télé. Mmh. En 1990, l'année de la réunification de l'Allemagne. En 2001... Loft Story a vraiment révolutionné le monde.
Super. Alors, on y va. Selon toi, 1942, 1981, 1990 ou 2001?
Allez, je dirais 1981.
Que ce n'était plus une maladie mentale en 1981?
Ouais, je dirais 80.
Alors, Clotaire.
Non, figure-toi que c'est 90.
Ah, c'était 90.
Et oui, en fait, après que le Danemark ait autorisé les unions civiles entre personnes de même sexe en 89, c'est en 90, donc le 17 mai exactement, que l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et d'ailleurs, le jour international contre l'homophobie, instauré en 2005, justement, se réfère d'ailleurs à cette date, puisque tous les ans, le jour de lutte contre l'homophobie, c'est le 17 mai.
Allons maintenant dans les Antilles, avec un livre qui en dit long sur la situation des homos là-bas dans les années 70. Voici la chronique littéraire d'Olivier.
Bon, je vais vous parler, donc on va à Cuba, dans les Grandes Antilles, donc, et on va parler d'un romancier et poète cubain qui s'appelle Reynaldo Arenas. Je pense que tu connais.
J'ai entendu parler, ouais.
Ouais. Donc en fait, c'est un poète et romancier ouvertement homosexuel qui a été persécuté par le régime castriste. Donc il a passé la majeure partie de sa vie en prison dans les années 70. Et il a dû s'exiler donc, en Amérique en 1980. Donc il a raconté une histoire dans un livre qui s'appelle « Avant la nuit ». En espagnol, ça se dit « Antes que Anugeca ». Je parle pas du tout espagnol.
Ouais, on aura remarqué.
Et ce récit fut même porté à l'écran par le cinéaste Julian Schnabel. Donc ça, il a tourné un film avec Javier Bardem et Johnny Depp. Voilà. Donc, en fait, je vous ai emmené le bouquin pour vous lire des passages. En fait, ça raconte vraiment la vie d'un homosexuel dans les années 70 à Cuba. Alors, c'était quand même très, très chaud. Hein. Il y a des passages vraiment chauds, on va dire.
Chaud, bah oui.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans son livre qui s'appelle Avant la nuit, donc, il catégorise à un moment donné le type de folle qu'il y a à Cuba. Voilà.
Parce que c'était assez libre à Cuba, on avait.
Bah, oui, c'était très très libre.
Très libre.
Mais juste, à un moment donné, Castro a décidé qu'ils étaient contre-révolutionnaires, ouais. Donc il fallait les enfermer. La majeure partie ont passé leur vie en prison. Donc là, il y a quatre catégories de folles pour lui. Alors d'abord, il y a la folle à l'anneau.
Avec un anneau, c'est ça, à la
voilà. Donc ouais. En fait, c'est le genre d'homosexuel à scandale qui se faisait tout le temps arrêter dans des toilettes publiques ou à la plage. Le système l'avait pourvu, d'après ce que je pouvais voir, d'un anneau qu'il portait au cou en permanence. Donc la police l'attrapait avec une espèce de crochet et il était traîné ainsi dans les camps de travaux forcés. Donc en fait, on mettait un anneau aux homosexuels.
Pour pouvoir mieux les accrocher.
Pour pouvoir les accrocher.
Oh, putain. Comme autant d'esclavagisme.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Après la folle à l'anneau venait la folle ordinaire. Donc à Cuba, c'est le genre d'homosexuel qui a passé un arrangement, fréquente la cinémathèque, écrit un poème de temps en temps, et ne prend jamais de risques excessifs et va boire le thé chez les amis. Après, il y avait la folle ordinaire. Après la folle ordinaire vient la folle déguisée. Donc la folle déguisée était bel et bien folle, mais presque personne ne le savait. Elle se mariait, avait des enfants, ce qui ne les empêchait pas de fréquenter clandestinement les toilettes publiques. Avec au doigt l'anneau nuptial offert par leur épouse. Et puis il venait enfin la folle de la haute, donc une exclusivité des pays communistes. La folle de la haute est celle qui, en raison de liens avec le chef suprême, donc Castro, jouissait du privilège de pouvoir s'afficher comme folle. Elle pouvait mener une vie de scandale tout en occupant des postes très élevés, voyager, entrer et sortir du pays, être couverte de bijoux et de fringues et même disposer d'un chauffeur privé.
Ah, mais une justice à deux vitesses alors.
Oui, un petit peu quand même. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Il parle vraiment de sa vie en prison. Donc les prisons cubaines étaient particulièrement sordides à l'époque.
Bah, toujours, je pense. Hein.
Ouais. Et puis surtout, il évoque... il faut savoir qu'en 1980, il y a eu un phénomène qu'on appelle l'exode de Marielle. Donc en fait, Castro a décidé d'exiler tous les contre-révolutionnaires de Cuba. Donc de mèche avec les Américains, il a décidé qu'il fallait exiler à peu près 100 000 personnes. Donc en 5-6 mois, il y a 100 000 personnes qui ont pris des bateaux et qui sont partis aux États-Unis, chassés
étaient,
par Cuba.
Comme les homos étaient considérés comme révolutionnaires aussi,
oui, c'est... dont okay. Les homos. Alors, il raconte un témoignage. En fait, il fallait prouver qu'on était homosexuel. Voilà.
Donc dans, ah, c'est dans le contraire. Oui. Si vous voulez partir, il fallait dire qu'on était homo pour pouvoir partir.
Oui, oui. Donc voilà, je vous lis un des passages. Donc la meilleure façon d'obtenir son visa était donc de prouver par un document quelconque qu'on était homosexuel. Je n'avais rien de ce genre pour le prouver, mais j'avais ma carte d'identité spécifiant que j'avais été en prison pour scandale sur la voie publique. C'était déjà une bonne preuve. Donc dès mon arrivée, la police me demanda si j'étais homosexuel. Et je leur dis que oui. Ils me le demandèrent si j'étais actif ou passif, et je pris la précaution de déclarer que j'étais passif. Ils avaient refusé le visa de sortie à l'un de mes amis qui s'était dit actif. C'était la pure vérité, mais aux yeux du gouvernement cubain, les actifs n'étaient pas vraiment homosexuels. Ils me firent marcher devant eux pour s'assurer que j'étais bien une folle. Il y avait des femmes qui étaient psychologues, et je réussis le test, et le lieutenant cria à un autre militaire, « Celui-là, tu me l'expédies dardard ». Voilà, donc on voit un petit peu comment étaient traités les homosexuels à l'époque. Voilà.
D'accord.
Donc du coup, il est parti à Miami, en Floride, en 80. Et puis, malheureusement, il a contracté donc, le virus du sida en 87. Et devant la déchéance, en fait, il était malade, il ne pouvait plus écrire. Et en fait, il s'est donné la mort en 1990. Donc en laissant un mot, donc, je vous lis la lettre qu'il a écrite en se suicidant. Donc en raison de mon état de santé, de la terrible dépression qu'elle me cause, du fait de mon incapacité à écrire et à lutter pour la liberté de Cuba, je mets fin à ma vie. Je veux encourager le peuple cubain dans l'île, comme à l'extérieur, et à continuer le combat pour les libertés. Cuba sera libérée, je le suis déjà.
On voit que ce soir on mélange les cultures, mais il y en a qui sont communes à beaucoup, comme la poésie par exemple. On reçoit maintenant Francis, l'animateur de l'émission Poète sans papier. C'est sans protection qu'il répond à notre question LGBT.
Qu'est-ce que le barbac ?
Oh non !
Qu'est-ce que le barbac ? Fallait que ça tombe sur toi.
Tu n'as pas fait ça quand même.
Un gâteau à base de lubrifiant comestible, une activité sexuelle non protégée, une zone internationale où tous les plaisirs sont autorisés, le duty free du siècle. Le chant festif de Noël des gays et lesbiennes, petit barbac Noël quand tu descendras du ciel.
Oh
j'enclinerai pour le 4.
Alors, on y va, on reprend. Donc, est-ce que c'est un gâteau à base de lubrifiant ?
Non, je pense pas.
Une activité sexuelle non protégée ?
Non, je pense pas, non.
Non plus ?
Une zone internationale, non. Non, il y a peut-être un mot qui ressemble, mais c'est pas ça. Non,
petit barbac Noël, non ?
Oui, oui, oui.
Petit barbac Noël,
oui, quand tu descendras du ciel.
Eh ben, c'est
oui,
pas gagné, hein. Moi,
alors, Clotaire, qu'est-ce que le barbac ?
Eh ben, en fait, c'est une activité sexuelle non protégée.
Ah, zut.
Donc, en fait, ce mot américain qui a émergé chez les gays en France a émergé au milieu des années 90 et signifie « monter à cheval sans selle ». C'est un peu comme manger de la viande sans peau.
Oui, c'est ça, avec l'émission effectivement d'Afrique.
Donc, il évoque alors des rapports volontairement non protégés entre séropositifs. Donc, à la base, c'était entre séropositifs. Donc, sans le risque véritablement de transmettre le virus, même si là, il y a discorde. Donc, ce terme a aussi pu définir des rapports délibérément non protégés entre un séropositif et un séronégatif, ou des personnes qui ne connaissaient pas leur sérologie. Ce qui a suscité des débats passionnés, notamment justement autour de la transmission du VIH.
D'accord, donc voilà, maintenant tu sauras ce que c'est que le
barbac.
Oui,
t'as
oui, bien fait de venir.
Je m'en méfierais d'ailleurs beaucoup.
Mais oui, j'imagine.
Maintenant que je sais ce que c'est.
Eh ben, mais il y a des rimes riches hein, qu'on peut faire avec ça.
On reste. Merci à tous.
Merci.
Le podcast sera en ligne d'ici quelques minutes et puis on se retrouve donc dans 15 jours. À très bientôt. Bye bye.
Bisous, bisous. Bonne soirée.